Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce. Vous ne cessez d'être tous les jours aussi nombreux à nous écouter et je vous remercie. Vraiment, n'hésitez pas à parler de nous, n'hésitez pas à soutenir Storia Voce en allant notamment sur notre page d'accueil de notre site dans la rubrique « Soutenez-nous ». En son temps, Jules César plaça le personnage au centre de son œuvre de propagande « La guerre des Gaules ». Bien des siècles plus tard, sous le Second Empire, puis sous la Troisième République, il devint une sorte de héros national, à l'heure où pourtant la nation n'existait pas encore. Au centre de nombreuses hagiographies, le nom de Vercingétorix nous apparaît davantage comme un nom de légende, une légende qui, jusqu'à nos jours, donne aux défaites françaises une forme de noblesse et de grandeur. Pourtant, pendant des siècles, le vaincu d'Alésia ne fut guère au centre de l'attention, bien au contraire. En effet, le caractère légendaire du célèbre Arverne est né dans les têtes romantiques du XIXe siècle. Or, le romantisme, fut-il révolutionnaire, fut-il nationaliste ou bien encore les deux, n'est pas l'histoire. Storia Voce vous propose aujourd'hui de revenir à une réalité plus prosaïque. Qui fut Vercingétorix, fils de roi? Dans quelle société a-t-il vécu? Quels étaient ses rapports avec le monde romain et tout particulièrement avec l'évident Jules César, dont il fut un temps l'otage? Comment enfin naquit la rébellion des Gaules? D'ailleurs, faut-il parler des Gaules ou bien de la Gaule? Autant de questions que je vais poser à Jean-Louis Bruno. Jean-Louis Bruno, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, directeur de recherche au CNRS, auteur de nombreux ouvrages, notamment un Alésia paru en 2012. Et avant, vous avez étudié les druides dont vous parlez, bien évidemment, dans votre dernier ouvrage, Vercingétorix, paru dans la collection Biographie chez Gallimard. Jean-Louis Bruno, ma première question est assez simple. On a tendance, au fond, à penser Vercingétorix à travers le 19e siècle et à travers l'image que le 19e siècle nous en a laissée. Or, cette image est complètement fausse.
Oui, tout à fait. Donc, on est submergé un petit peu par les images, déjà. Donc, le 19e siècle, effectivement, c'est l'époque où, finalement, Vercingétorix naît. Il naît en 1828, précisément, sous la plume d'Amédée Thierry. C'est le frère d'Augustin Thierry, qui entreprend une immense histoire de la Gaule, d'ailleurs, qui, pour son temps, est très bonne. Et Amédée Thierry est le premier à vraiment donner une figure un petit peu humaine à ce personnage qui effectivement était passé dans l'ombre pendant tout le Moyen-Âge, même jusqu'au 19e siècle. Et ce personnage a surtout suscité les artistes picturaux. Donc on a fait des peintures qui sont très célèbres, hein, celle de Léon Noël Royer par exemple, qu'on voit sur tous les manuels. Mais ce personnage, même à l'époque romantique, n'a pas été sujet d'exploitation imaginaire dans la littérature. Donc c'est assez curieux. Et finalement, à toutes les époques, son image a eu beaucoup de mal à s'exprimer, à s'imposer.
Vous écrivez que Vercingétorix est en quelque sorte prisonnier de deux idéologies. Une première idéologie qui célèbre la grandeur de la culture gréco-romaine, et de l'autre, une autre idéologie qui, je la citais en introduction, qui est ni plus ni moins que la culture nationaliste du 19e.
Oui, et c'est certainement ce piège-là est apparu dès le 19e siècle, et on s'aperçoit que finalement il n'a pas réussi à s'en sortir, et même encore de nos jours, il le fait avec le plus grand mal. J'ai fait des efforts effectivement pour tenir un autre discours, mais c'est vrai que c'est assez difficile.
On pense Vercingétorix uniquement à travers son ennemi, qui est Jules César. Or, c'est une erreur?
Oui, bien sûr, c'est une erreur, mais c'est une erreur parfaitement compréhensible parce que la documentation que l'on possède sur Vercingétorix, c'est celle que nous a donnée César, et donc on tombe dans un piège que nous a tendu César, c'est-à-dire que pour lui, Vercingétorix n'est que son faire-valoir. Donc effectivement, à travers Vercingétorix, c'est toujours César que l'on voit.
Mais est-ce que aujourd'hui, l'historiographie, enfin l'archéologie nous aide à faire évoluer notre point de vue, on va dire, dans les 30 dernières années? Est-ce que les recherches ont permis de nouvelles découvertes sur ce personnage?
Alors, sur le personnage, relativement peu, si l'on veut, si l'on peut dire, mais je pense qu'on aura l'occasion d'entrer un petit peu dans les détails. Mais sur le monde gaulois, sur l'histoire gauloise, c'est même pas les 30 dernières années, ce sont les 50 dernières années qui ont permis à l'archéologie de faire des progrès absolument remarquables, ce qui fait que maintenant, on connaît fort bien la société gauloise, on connaît fort bien la vie quotidienne des Gaulois, peut-être même plus que celle du monde mérovingien. Donc c'est tout à fait étonnant. Donc en un demi-siècle, la vision de la Gaule a totalement changé. Donc forcément, les personnages historiques comme Vercingétorix s'en trouvent affectés.
Alors le prisme du 19e siècle pose la question de la nation. Est-ce qu'on peut aller un peu plus dans le détail en voyant cette réalité de ce qu'est la Gaule? D'ailleurs, peut-on parler de la Gaule, je posais la question, ou faut-il parler des Gaules ou bien des peuples gaulois?
Alors là, ce sont des questions effectivement extrêmement complexes et qui dépendent un petit peu du point de vue où on se place. C'est-à-dire que pour les Romains, il existe plusieurs Gaules, tout simplement, puisque les Gaulois ont, à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ et jusqu'au 2e siècle, occupé le nord de l'Italie, la Cisalpine. Pour les Romains, il y a tout d'abord une Cisalpine gauloise. Pour eux, la Gaule, c'est le nord de l'Italie. Et il faut attendre pratiquement le 2e siècle pour qu'ils aient conscience d'une autre Gaule qui se trouve au nord des Alpes. Donc pour eux, il y a effectivement plusieurs Gaules. Et puis à l'époque de César et dans l'Empire, donc ce sont la Narbonnaise, donc la province, la Gaule dite Comata, donc la Gaule indépendante une fois qu'elle est romanisée, et plus la Cisalpine, tout ça fait trois Gaules. Pour les Gaulois, il en va un petit peu autrement, c'est-à-dire que effectivement, il y a eu une période où il y a cette Cisalpine gauloise, mais qui est un peu une terre de colonie. Et puis il y a une Gaule, donc ce qu'on appellerait la Transalpine, la Gaule que l'on connaît, à laquelle on pense un petit peu automatiquement, celle-là, pour les Gaulois, existe comme une sorte de pays idéal. Donc ça, je pense qu'on peut peut-être développer, si vous le souhaitez. Pays idéal, parce que c'est une construction spirituelle et politique, et notamment qui doit beaucoup aux druides. Donc les druides se sont étendus uniquement dans la Gaule, et leur mode de fonctionnement, c'est-à-dire qu'ils obéissaient à un chef unique de tous les Gaulois, de tous les peuples de la Gaule, qui se réunissaient tous les ans, ils ont communiqué ce modèle au peuple gaulois. Et donc, ils ont très tôt dessiné un petit peu arbitrairement avec ce qu'on appelle les frontières naturelles, c'est-à-dire les montagnes, les océans et le Rhin, ils ont dessiné une Gaule qui est relativement géométrique, hein, c'est courant de le dire, dans lequel ils ont déterminé un centre géométrique, hein, qui se trouve près d'Orléans, qui est considéré comme un omphalos, qui est l'ombilic de la Gaule, quelque chose de sacré, en quelque sorte le cœur de la Gaule. Donc, c'est surtout une vision spirituelle qui est devenue de plus en plus politique, puisque le modèle de ces réunions des druides, qui répondaient à des nécessités théologiques, notamment philosophiques, puis judiciaires, s'est étendu à la politique, et très tôt, à partir probablement de la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, 4e siècle, s'est instauré une institution très importante qui est le Conseil de toute la Gaule, c'est-à-dire que ces peuples gaulois, dont on pourra reparler aussi, envoient des délégués à ce conseil, et ces délégués nomment un patron parmi ces cités, qui est en quelque sorte une sorte de leadership, un rôle de guide. Donc c'est un pays, mais encore une fois, c'est un pays un peu utopique.
Alors c'est un pays utopique, mais tous ces peuples, ils ont des liens, vous l'avez montré, des liens politiques. Est-ce que se créent des réseaux d'alliances, de contre-alliances?
Oui, tout à fait, parce que les Gaulois en général, pas seulement les peuples, les Gaulois, avec toutes les déclinaisons qu'on peut donner à ce mot, fonctionnent avec le système de la clientèle, qui existe aussi à Rome, puisqu'il y a les patrons, il y a les clients, mais là, c'est étendu aux cités, c'est étendu aux villes, c'est étendu au peuple. Donc, ils ne fonctionnent que par ce système de clientèle. Mmh. Et ça, très très tôt. Et donc, effectivement, il y a des réseaux qui se forment, et puis il y a aussi des confédérations qui ont des origines souvent commerciales. Mmh. C'est le cas des Celtes. Donc les Celtes, c'est une confédération qui répond à la demande de commerce grec.
Alors c'est ce qu'il y a d'étonnant dans, et ce qu'on découvre dans votre livre, et j'imagine que ce qu'on découvre aussi à travers votre livre « Les druides, des philosophes chez les barbares », c'est on voit le monde gaulois comme un monde un peu de barbare par rapport à la civilisation grecque, par rapport à la civilisation romaine. Or, c'est un monde qui est évolué à la fois sur le plan de la religion, sur le plan de la politique et sur le plan même économique.
Oui, et je dirais aussi technologique, parce que si chacun de nous savait ce que les Gaulois savaient faire et ce qu'ils ont apporté aux inventions, tout le monde serait étonné. Donc il faut savoir que c'était les plus grands constructeurs de véhicules de l'Antiquité. Donc les véhicules à deux roues, à quatre roues, enfin tous les types de véhicules, ce sont eux qui les ont inventés, qui les ont exportés, notamment en Italie. Et ces véhicules avaient un tel succès qu'ils ont gardé leur nom gaulois même en Italie. Par exemple, ou les vêtements, par exemple les pantalons, les chemises à manches, la capuche, etc. Donc ce sont des inventions. Et puis toutes les inventions qui tournent autour des métiers des métaux, notamment la forge, tout le travail du fer et du bronze, où ils ont obtenu des résultats absolument extraordinaires.
Ce qu'il y a d'étonnant, mais peut-être que je me trompe, peut-être que vous allez me corriger, c'est que le monde druide, le monde de la religion, est à la fois un monde lié à la préservation d'une culture. Ce que vous dites, les druides étaient les maîtres d'œuvre de ce perpétuel travail mémoriel, la culture à nul autre pareil qu'ils enseignaient aux Gaulois, séparer ces derniers de leurs voisins plus radicalement que toute frontière. Donc il y a l'élément culturel qui est très important, mais en même temps, ce monde religieux veut inscrire les peuples gaulois dans un avenir.
Oui, alors ça c'est un paradoxe effectivement, mais c'est un paradoxe qu'on connaît aussi en Grèce, puisque les druides, donc ces personnages qui sont si particuliers, qui en fait sont des sages tout simplement. Donc, et quand on dit sages, ce sont des savants et des théologiens et des justiciers, des hommes de justice aussi, sont très proches de Pythagore et de ses disciples. Donc, ils fonctionnent comme les pythagoriciens.
Mais il y a eu des liens culturels.
Alors, les liens, on n'arrive pas à les mettre en évidence. Alors, dans l'Antiquité, déjà, c'était source d'interrogation, notamment de la part des philosophes grecs, qui se demandaient pourquoi tant de ressemblances avec les pythagoriciens. Donc, on a imaginé que Pythagore avait été élève des druides, ou à l'inverse, que les druides étaient venus suivre les cours de Pythagore. Mais il y a un petit écart chronologique qui fait que ça n'est pas possible. En revanche, les Gaulois ont pu rencontrer en Italie des disciples de la première ou de la seconde génération de Pythagore. Et donc, pour être plus explicite, ces pythagoriciens fonctionnaient un petit peu en une caste fermée comme les druides, et surtout prônaient l'interdiction de l'écriture. Donc c'était une conception très élitiste du savoir, qui ne devait pas être divulguée, parce que c'était une forme de pouvoir. Et puis parce que ça donnait des possibilités intellectuelles absolument extraordinaires par le jeu de la mémoire. Donc on revient à ce que vous évoquiez tout à l'heure, oui. cet entretien de la mémoire sous toutes ses formes, effectivement. Mais en même temps, ces druides, curieusement, étaient extrêmement ouverts, et notamment ouverts sur le monde grec. Ils ont très vite acquis la langue grecque qu'ils étaient capables de parler. Ils ont acquis l'usage de l'écriture grecque, qu'ils n'ont pas utilisé pour écrire des textes, mais qu'ils ont utilisé pour compter, pour faire des annotations scientifiques. Et ils ont certainement orienté leurs meilleurs élèves aussi vers les écoles de Marseille ou d'autres écoles, les écoles de philosophie et de rhétorique. Donc effectivement, c'est des gens très ouverts.
C'est un monde aristocrate, enfin, un monde élitiste.
Oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Ça, c'est sûr. Oui, oui.
Et on ne peut comprendre Vercingétorix, donc sans avoir cet éclairage.
Ah, bien sûr, parce que lui, c'est le pur produit de ce monde aristocratique. Il est le descendant d'une lignée aristocratique arverne, donc le peuple qui correspond à l'Auvergne actuellement, avec des ancêtres très célèbres, notamment Luherne ou Bituite, et qui devaient être ses ancêtres, et son père, Celtilos, qui était un très grand homme politique, qui a réussi à avoir le commandement de toute la Gaule.
Vous écrivez Vercingétorix, c'était la quintessence de l'homme que pouvait produire la cité arverne, un adolescent de la plus noble famille, doué d'exceptionnelles qualités, l'intelligence, le courage, le sens du commandement. Il devait tout à son peuple, le chef, le rix, hein, c'est le Vercingétorix, rix, c'est
oui,
le chef,
oui,
est indissociable de son peuple.
Ah oui, oui, parce que d'abord, rix, bon, ça correspond au rex latin, le roi. Il faut revenir à l'origine indo-européenne du mot. Rex ou rix, c'est celui qui guide, et celui donc qui guide son peuple. Donc c'est quelqu'un qui doit avoir la capacité de, effectivement, de dominer son peuple et de l'orienter là où il doit aller, effectivement.
Que représentent les arvernes dans ce monde gaulois et dans ce jeu d'alliance de clientélisme que nous évoquions tout à l'heure?
Alors, ils ont la plus grande place, si l'on peut dire, parce que tout à l'heure, on a parlé très rapidement des Celtes. Alors, il faut savoir, et on peut le constater immédiatement en lisant la première ligne du texte de César, la guerre des Gaules. Il dit que la Gaule est divisée en trois catégories de nations. Donc, il parle des Belges qui se trouvent au nord de la Seine, il parle des Aquitains qui sont au sud de la Garonne, et le reste, le centre de la Gaule, qui est occupé par les Celtes. Donc, les Celtes, pour les hommes de l'Antiquité, ce sont des habitants de la Gaule, ça n'est pas autre chose. Et j'ai pu montrer dans un autre ouvrage que ces Celtes, ce sont en fait une sorte de confédération qui s'est formée très tôt, donc au VIe siècle avant Jésus-Christ, quand les Phocéens, donc les Grecs de Ionie, de Turquie, sont venus en Gaule pour chercher de l'étain notamment, et on fait appel aux autochtones, parce que les Grecs ne sont pas des voyageurs, ne sont pas des aventuriers sur Terre, et en plus ne parlent pas les langues étrangères. Donc ils avaient besoin de relais, et donc ils ont demandé à ces peuples de s'organiser, en leur donnant les moyens de le faire, des moyens notamment diplomatiques, commerciaux, monétaires, etc. Et ces peuples, bah, évidemment, se sont tout de suite transformés. Ils n'étaient plus les mêmes, et surtout, ils ont été capables de se réunir à un grand nombre sur un très grand territoire, et donc ce sont ça les Celtes. Et là, justement, les Arvernes, pour revenir à votre question, occupent une place centrale parce qu'ils sont, en quelque sorte, au sommet de la pyramide. Ils sont sur ce massif montagneux de l'Auvergne qui domine tout le territoire des Celtes, notamment qui domine le Languedoc, et qui domine aussi les voies commerciales importantes, notamment celles qui passent par le Rhône ou par la Garonne. Donc, ils sont vraiment en position dominante. Et ça veut dire qu'ils ont gardé cette position politique de primauté pendant une grande partie de l'histoire gauloise, pratiquement jusqu'au IIe siècle avant Jésus-Christ.
Alors, avançons justement dans le temps. Nous sommes au début du 1er siècle avant Jésus-Christ. Est-ce qu'il existe des liens entre les mondes gaulois et notamment le monde arverne, le peuple des Arvernes, et le monde romain?
Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il faut savoir que donc ces peuples, notamment les Arvernes et tous leurs voisins, et parmi eux on en parlera beaucoup, les Éduins du Morvan, ce sont des gens qui se sont en quelque sorte fabriqués au contact des Grecs. Donc la Gaule, finalement, c'est une construction qui doit aussi beaucoup à la Grèce, via Marseille, la Gaule a toujours vécu en symbiose avec Marseille. Or, à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, le commerce massaliote faiblit, et progressivement, les Romains prennent le relais. Et notamment, on le voit avec les guerres puniques. Lors de la Seconde Guerre punique, les Gaulois, notamment les Arvernes, s'engagent profondément dans cette guerre punique. Ce sont eux qui permettent à Hannibal de passer par le sud de la Gaule et de venir, en quelque sorte, agresser les Romains en traversant les Alpes, le fameux passage des Alpes avec les éléphants. Donc là, on voit tout de suite que dans ces années 218, par là, les Arvernes ont déjà une place importante et qui deviendra de plus en plus importante dans les années qui viennent. Et surtout, ce seront les Éduins, donc qui vont devenir les ennemis, en quelque sorte les rivaux des Arvernes dans le commerce avec Rome. Parce que Rome va effectivement, en quelque sorte, s'engager dans cet espace que les Phocéens ont libéré.
Alors, que sait-on, parce qu'on va en venir On va venir au personnage, hein, votre héros. Que sait-on de la jeunesse de Vercingétorix ?
Oh, très peu de choses. Enfin, très peu de choses et à la fois beaucoup. C'est-à-dire qu'on sait ce que le peu que César nous en dit, et il nous dit qu'il est le fils de Celtilos, donc ce grand chef arverne qui a eu le patronat lors de ce conseil de toute la Gaule. Il a eu le patronat de toute la Gaule. Et c'est son peuple, les Arvernes, l'ont soupçonné, donc Celtilos, de vouloir accéder à la tyrannie. Or ça, c'était le plus grand crime qui se puisse imaginer chez les Gaulois. Donc les Gaulois avaient une peur terrible de la tyrannie, et tout leur système politique était construit de façon à l'éviter. Donc notamment, toutes les magistratures étaient des magistratures annuelles, avec tout un tas de contraintes qui faisaient que normalement la tyrannie était très très difficile à imposer. Et donc ils ont soupçonné ce Celtilos de vouloir prendre le pouvoir chez eux de façon tyrannique. Ils l'ont soumis à un jugement et ils l'ont mis à mort. Ouais. Et donc Vercingétorix a eu ça dans son enfance, ça à voir, ça à constater, et évidemment c'est ce qui a construit sa personnalité.
Mais ce n'est pas parce que son père a été mis à mort que il n'a pas lui-même, on mettrait en quelque sorte fin à son destin royal.
Ah non, pas du tout, parce que ça, on a d'autres exemples de situations un petit peu semblables, c'est-à-dire que la famille n'est pas punie pour les crimes réels ou supposés du père.
Ouais.
Voilà, donc
ouais.
Pour la famille de Vercingétorix, ça n'a rien changé. Et effectivement, César nous le dit, très rapidement, Vercingétorix a récupéré tous les biens, toute la clientèle de son père, et il s'est retrouvé à la tête d'une masse de gens qui étaient prêts à l'aider, à former une armée, etc.
Un homme riche ?
Oui, évidemment, tous ces gens-là sont des gens extrêmement riches, hein, ça c'est sûr.
Donc, en fait, c'est un homme jeune qu'on destine à devenir roi. Il y avait, on luttait contre l'idée de tyrannie, il y avait une sorte de transmission, un peu comme une forme de future loi salique dans le monde gaulois.
Non, pas exactement, parce qu'effectivement, il n'y a aucune hérédité, mais on prépare, effectivement, ouais. Et ne serait-ce que le nom...
On prépare le jeune à devenir
le jeune,
chef.
Voilà. Ouais. Et ne serait-ce que son nom, donc Vercingétorix, ça veut dire le roi des grands guerriers. C'est un nom qui évoque effectivement la royauté. Alors la royauté, elle, n'est pas jugée négativement par les Gaulois, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui est institutionnel, qui est électif. La royauté, c'est une royauté élective et qui n'est pas définitive, qui n'est pas pérenne. C'est une royauté temporaire.
Alors comment Vercingétorix devient Vercingétorix ? Comment, à un moment donné, ces hommes vont se rassembler afin de faire face à ce qu'on qualifierait de menace romaine ?
Ah, là c'est complexe. Bon, comment il est devenu Vercingétorix ? Déjà par son enfance, par son éducation. Donc là, on peut s'en tenir qu'aux généralités, c'est-à-dire qu'il a eu une éducation intellectuelle avec les druides, une éducation militaire, guerrière, parce que c'était la destinée des nobles. Et puis cette préparation politique, comme on vient de le dire, on l'a préparé à ce qu'il puisse remplacer un jour son père. Et puis après, la menace romaine dont vous me parlez, elle n'est pas aussi évidente, elle n'apparaît pas comme ça d'un coup lorsque César arrive. C'est tout le contraire. C'est-à-dire que, d'abord, il faut savoir que ce sont les Éduens, donc le peuple du Morvan, qui ont fait venir César en Gaule. Donc César n'est pas venu par un coup de force en Gaule.
Il est venu à la suite d'un appel.
Il est venu à la suite d'un appel pressant de la part des Éduens, mais en fait qui est une machination assez complexe entre César et un chef des Éduens qui s'appelle Divitiac. C'est une sorte de deal qu'ils ont pris ensemble. Et ils ont profité de la migration des Helvètes, donc le peuple du plateau suisse qui voulait changer de territoire, qui voulait aller en Saintonge. Et donc, on a pris ce prétexte pour entrer en Gaule, ce qui était formellement interdit, même aux yeux du Sénat romain. Mais comme les Éduens, qui étaient des amis de Rome, ont demandé à César d'intervenir, il a pu intervenir. Donc, ça n'a pas été vu comme une menace au départ, d'autant plus que immédiatement après le retour des Helvètes sur le plateau suisse, tous les peuples de la Gaule ont envoyé des délégués auprès de César pour lui demander son aide face à une menace encore plus importante que celle des Romains, c'est celle des Germains. Donc il faut savoir qu'à partir des années certainement 62, 63 avant Jésus-Christ, il y a des incursions germaines dans tout l'est de la Gaule qui sont absolument terribles et qui ont été amplifiées par le fait que les Séquanes, donc le peuple de Franche-Comté, ont pris des mercenaires germains à leur solde justement pour lutter commercialement contre les Éduins. Donc tout ça n'a pas arrangé les choses, et dans les années 60, il y a eu une bataille importante entre une confédération gauloise et les Germains d'Ariovist, et Ariovist a gagné, et à partir de l'année 60, Ariovist considère que la Gaule est sa future province. Donc là, il y a une menace très importante, et ils occupent une partie certainement la plaine d'Alsace, une grande partie de Franche-Comté, une partie du territoire des Trévires dans le Luxembourg, donc il y a une grande menace. Et donc, les Gaulois demandent à César de les aider.
Parce que les Gaulois ne sont pas capables de se défendre eux-mêmes, parce que Rome bénéficie déjà d'une forme de rayonnement est connue comme ayant la force et la capacité.
Il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a une attirance effectivement très importante de une grande partie des peuples de l'Est. On peut quasiment couper la Gaule en deux moitiés dans l'axe nord-sud, et toute la partie Est est très liée au commerce avec Rome, au moins depuis le deuxième siècle avant Jésus-Christ. Donc, au point qu'ils ont abandonné souvent leurs forces militaires. Donc, eux qui étaient des grands guerriers n'entretiennent plus d'armées ou des armées individuelles, en quelque sorte. Donc, ils sont plus vraiment capables de se battre. Et puis, ils sont attirés par Rome et ils voudraient être les alliés privilégiés de Rome, peut-être même intégrés au futur empire romain, si on peut dire. Donc, il y a ça. Et puis, toute la moitié occidentale qui, elle, rêve de rester telle qu'elle était.
Vercingétorix connaît César, puisqu'il va être son otage pendant plusieurs années. Pourquoi d'abord devient-il otage, et que représente, parce que nous ne l'avons pas dit, César à cette époque?
Alors, justement, là, ça nous permet de faire le lien avec l'histoire précédente, c'est-à-dire, quand les Gaulois demandent à César de les aider contre les Germains, c'est quasiment une demande de protectorat qu'ils font. Et c'est ça que les historiens n'ont pas bien compris. Et parce que César, dans son ouvrage, ne va pas le dire explicitement, parce que ça enlèverait beaucoup
de son prestige.
Donc il ne le dit pas, mais c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que les Gaulois, à partir de ce moment-là, sont dominés par César. Ils doivent lui fournir des hommes, des chevaux, du fourrage, de l'argent et des otages, pour être sûr qu'ils tiendront parole, parce que les Gaulois étaient quand même réputés pour être un petit peu versatiles.
Et généralement, ces otages étaient fils de chefs.
Voilà, donc les meilleurs otages, ce sont les fils des familles princières. Et chez les Arvernes, le plus connu, celui qui avait le plus de valeur, en quelque sorte, c'est Vercingétorix. Donc, il est parmi les premiers qui sont choisis par Vercingétorix. Et ces otages, ce sont des otages un petit peu comme dans le monde médiéval, c'est-à-dire ce sont des familles princières qui laissent partir leurs enfants dans une autre famille princière et qui sont traités exactement comme des princes, tout à fait. Et donc, Vercingétorix est dans la cour de César, dans son camp, dans ses quartiers généraux. Il ne doit pas coucher bien loin de la tente de César, etc. Et il est appelé à déjeuner très régulièrement avec lui, à discuter régulièrement avec lui, et aussi à s'occuper des troupes d'auxiliaires, parce qu'il faut aussi fournir des troupes d'auxiliaires pour César. Et donc Vercingétorix doit être à la tête d'une troupe d'auxiliaires qu'il doit diriger. Donc c'est une éducation qui va aller extrêmement vite, puisque Vercingétorix va pouvoir appliquer tout ce qu'il a appris dans sa propre enfance ses capacités militaires, ses capacités de direction, et en même temps, il enregistre tout ce qu'il voit dans un camp romain, tout ce qu'il voit César faire, ou tout ce qu'il voit faire des lieutenants de César, en politique notamment, en diplomatie. Donc là, il y a vraiment, c'est une expérience absolument extraordinaire.
Donc c'est vraiment un temps de formation, de maturation politique pour lui.
Ah, tout à fait.
Il avait déjà une sorte de prédestination, il avait déjà cela dans ses gènes, si vous me permettez l'expression. Mais en plus, il est aux côtés du meilleur.
Oui. Et puis là, il voit la machine en route, c'est-à-dire que dans son enfance, alors j'en parle un peu dans mon livre, il est évident qu'il a vu passer chez lui tous les hommes politiques de la Gaule qui venaient voir son père, qui était un homme extrêmement important, parce que c'est comme ça que les relations se nouaient chez les hommes politiques. Donc, il connaissait déjà la Gaule par tous ces hommes politiques. Mmh. Et là, maintenant, il va voir tous ces hommes politiques venir dans le camp de César pour faire un petit peu ce qu'il faisait déjà avec son propre père, quoi.
Il y a un lien filial ou amical entre César et Vercingétorix ?
Ah, il y a un lien amical qui est très fort, qui est un lien institutionnel à Rome. Notamment, on parle d'amitié et d'hospitalité. C'est-à-dire que l'hospitalité, ça veut dire que l'un et l'autre peuvent aller chez leur père, s'y installer comme s'ils étaient chez eux.
Oui.
C'est un lien très fort, effectivement.
Oui. Alors, il quitte son statut d'otage. Comment d'abord quitte-t-il son statut d'otage? Comment revient-il dans son pays? Et surtout, après avoir noué tant de liens avec le pouvoir romain, comment se fait-il qu'il décide d'emprunter une voie finalement opposée à celle d'une paix? Et d'une paix, si je vous écoute bien depuis le début, qui pourtant était prônée chez les druides qui recherchaient à sortir ces peuplades, j'allais dire, de la violence.
Oui, tout à fait. Il est certainement resté environ 3 ans, alors, très difficile de donner une durée précise auprès de César, et il devait naturellement retourner chez lui, comme tous les otages, parce que César considérait que la période d'otage était aussi une formation du Gaulois pour qu'il se romanise en quelque sorte, qu'il se prépare à prendre le pouvoir chez lui, mais dans la perspective d'une alliance avec Rome. Donc, lorsque César a pensé que Vercingétorix était mûr, il l'a relâché. Vercingétorix est rentré chez lui et il a essayé de prendre une place politique, celle que César lui avait promise en quelque sorte. Alors là, pour comprendre ce qui se passe, la réaction de Vercingétorix, c'est pas une réaction individuelle, c'est la réaction que vont avoir tous les nobles gaulois et plus particulièrement les jeunes, parce qu'il faut comprendre que lorsque, en 57, César a repoussé les Germains au-delà du Rhin, la menace a disparu, César passe des traités d'amitié avec tous les peuples gaulois, et il n'y a plus de guerre pratiquement. Et à partir de ce moment-là, soit César est appelé à faire de la Gaule une immense province, soit à s'arranger avec les potentats locaux pour pouvoir garder une domination par un intermédiaire, en quelque sorte. Pourquoi César choisit-il la seconde formule? Il ne la désigne pas province. C'est pour des raisons personnelles, des raisons politiques propres. C'est-à-dire qu'il veut garder le proconsulat de la Gaule le plus longtemps possible, de façon à bénéficier des légions qu'il a sous la main, de bénéficier de l'argent que lui rapportent les peuples gaulois. Tout ça pour préparer la lutte contre Pompée. Ça veut dire qu'il faut qu'il fasse des promesses aux chefs gaulois, en leur disant qu'ils auront le pouvoir, qu'ils le garderont, etc., pour que ces gens-là continuent à lui payer un tribut qui est extrêmement lourd, et qu'en même temps, ils calment la plèbe dans chacune des cités. Alors, tout ça dure 3-4 ans, et au bout de 3-4 ans, il y a des révoltes qui se manifestent un petit peu partout, et c'est le cas aussi chez les Arvernes. Et souvent, ce sont les jeunes nobles qui sont les premiers à secouer le joug, parce que ils s'aperçoivent que finalement leur avenir est éteint, en quelque sorte. Et donc, Vercingétorix va prendre le sens de la révolte qui souffle un petit peu partout en Gaule, et notamment dans le centre de la Gaule.
Alors, pour briser un peu les mythes, les idées reçues, est-ce que comment qualifier cette opposition entre le monde romain et le monde gaulois? Ce ne sont pas deux civilisations distinctes. On ne va pas parler de nation à l'époque où le nationalisme, enfin la nation n'existe pas.
Non, il n'y a pas de nation. D'ailleurs, bon, ce sont du vocabulaire qui n'existe pas dans le monde antique. Non, il y a des peuples. Donc, on a parlé de peuples, on a parlé d'Arverne, de Éduin, etc. Ah, il faut savoir que ces peuples, c'est à la fois une identité d'une population et d'un territoire. Et ces peuples, César les appelle des civitates, donc des cités. Mmh. Alors c'est un terme, enfin la traduction, notamment la traduction française, qui longtemps a déplu aux historiens français qui ne voulaient pas utiliser le mot, qui paraissait trop civilisé en quelque sorte. Mais en réalité, quand César emploie ce mot-là, c'est un sens très précis, ça veut dire qu'il considère que ces peuples sont dominés par des gens qui sont des citoyens, et qu'ils ont un fonctionnement de type démocratique. Alors, je peux vous en dire quelques mots, parce que ça peut être intéressant. Effectivement, les citoyens existent chez tous les peuples gaulois, sont des gens qui paient l'impôt, donc il y a des impôts, et qui ont une obligation militaire. Et ils ont un fonctionnement politique avec des élections qui leur permet d'élire des députés, notamment dans une assemblée civique, et il y a aussi une assemblée sénatoriale, comme chez les Romains, qui sont plutôt des patriciens, qui ont des terres, etc., et qui, en vertu des possessions terriennes, siègent dans cette assemblée. Et ces deux assemblées désignent chaque année deux magistrats, donc un administrateur public, en quelque sorte, et un stratège, qui s'occupe des choses de la guerre. Et tout ça, c'est pour un an, et donc ça fonctionne par coup d'élection, et on fait des lois exactement comme à Rome. Donc effectivement, c'est un système qui est très proche de Rome. Effectivement, là, on peut pas dire qu'il y ait une grande différence. Ce qui est plutôt différent, qui différencie les Gaulois des Romains, c'est plutôt dans la spiritualité, c'est-à-dire que les Romains sont extrêmement pragmatiques. Pour eux, tout se passe dans la vie, en quelque sorte. Donc, on fait des monuments, on a des maisons qui sont en dur, qui sont maçonnées, etc. Alors que pour les Gaulois, qui, eux, croient à la métempsychose, le passage sur Terre, c'est vraiment quelque chose de transitoire. Donc, ils ne cherchent pas à faire des maisons luxueuses, ils ne cherchent pas à faire des maisons qui seront pérennes, ils ne cherchent pas à laisser des monuments. Donc là, la conception est quand même sensiblement différente.
Alors, revenons à l'opposition politique qui deviendra une opposition militaire. C'est l'année 53 qui constitue un moment de rupture, 53 avant Jésus-Christ.
Oui, parce que là, en quelque sorte, ce sont les premières grandes révoltes, notamment chez les Carnutes. Et là, finalement, pour des raisons, encore une fois, tout à fait personnelles et tout à fait de politique romaine, César fait des erreurs. Donc il perd un petit peu les pédales, si on peut dire, et il réagit très très violemment à des révoltes chez les Carnutes, en tuant notamment le responsable de cette révolte. Mais après un jugement où les Gaulois participaient, puisque César reprend à son compte le conseil de toute la Gaule, qu'il dirige, et il fait voter par les Gaulois eux-mêmes, par les représentants des cités gauloises, la condamnation de ce personnage qui s'appelle Acco. Ils y sont contraints, et en plus, il est exécuté sous leurs yeux. Ce qui est vraiment pour eux une infamie considérable. Et ça va effectivement retourner les Gaulois en faveur de la révolte.
Donc, en fait, Vercingétorix, est-ce qu'on peut dire que c'est lui qui évolue sur le plan intellectuel, ou au fond, il y a un nouveau contexte où non pas la violence romaine, mais la volonté de domination romaine l'a amené à évoluer?
Je crois qu'il y a les deux. Je crois que effectivement les circonstances, les événements, le changement un petit peu politique de César l'amène à lui-même changer, mais c'est aussi parce qu'il est extrêmement intelligent et qu'il se rend compte de toute façon que il n'y a pas d'avenir pour les aristocrates gaulois d'une administration intermédiaire entre César et lui. Ça ne peut pas fonctionner, il le sent. Et donc, il choisit effectivement la voie totalement opposée, la révolte.
Donc, il est porté, il devient roi des insurgés.
Oui, et alors, ce qui est étonnant, et ça, justement, César, malheureusement, nous dit très peu de choses là-dessus. On a du mal, d'ailleurs, à comprendre comment les choses se font, parce qu'il semblerait que la révolte un petit peu d'une grande ampleur, qui concerne plusieurs peuples, notamment les Carnutes, les Bituriges, enfin, tous les peuples du centre de la Gaule, ait commencé avant que lui-même et jouer son jeu. Et il semblerait qu'il l'a senti, il en a pris la direction alors que cette révolte avait déjà commencé. Donc il y a quand même un sens de la propos tout à fait étonnant.
Ce qu'il y a d'étonnant aussi, c'est de voir ce personnage qui est exceptionnel. C'est vrai qu'on a une image de lui qui est liée à cet échec, l'échec d'Alésia, puis sa mort à Rome. Or, on est en face d'un personnage qui a un vrai génie politique, qui a un vrai charisme politique et qui sait parler en public. Et la parole est très importante.
Oui, tout à fait. Donc, c'est aussi quelque chose qui m'est apparu en rédigeant cette biographie, parce que moi, j'avais commencé cette biographie sans aucun a priori et sans aucune passion pour le personnage particulier. Je voulais simplement faire la biographie d'un Gaulois. Et donc, ce personnage s'est un petit peu révélé à moi. Et effectivement, ce qu'il ressort de tout ça, c'est que c'est un chef politique absolument étonnant, un chef militaire aussi absolument incroyable, parce que pendant toute l'année 52, c'est lui qui domine César, c'est lui qui promène César dans toute la Gaule, et c'est lui le maître du jeu. Et donc cette troisième qualité que vous évoquez, qui est la qualité d'orateur qu'il a, et qui là est tout à fait typique des Gaulois. Les Gaulois sont des grands orateurs, parce que justement ils ne pratiquent pas l'écriture. Donc effectivement, ils sont très forts en art oratoire. Souvent, ils ont été fréquentés les écoles de Marseille, comme je l'ai dit tout à l'heure, des écoles de rhétorique. Et même après, dans l'Empire, ce seront les meilleurs juristes, les meilleurs avocats, les meilleurs orateurs de l'Empire romain. Donc César, enfin Vercingétorix, c'est tout à fait à l'image de ces Gaulois maîtres de la parole, en quelque sorte.
Est-ce que c'est... alors? Certes, il mène la danse, si vous me permettez cette expression, en 52, mais est-ce qu'il se berce d'illusions? Est-ce que la machine romaine est d'ailleurs une machine et que la messe est en quelque sorte dite?
Ah non, la messe n'est pas dite. Non, la messe n'est pas dite. Justement, quand on voit les difficultés de César dans l'année 52, il faut savoir que César ne peut plus circuler que dans la moitié orientale de la Gaule. Il est contraint à rester chez ses alliés, c'est-à-dire chez les Éduins, chez les Séquanes, etc. Mais il ne peut plus aller dans l'ouest de la Gaule. Donc, je pense que pour Vercingétorix, c'était assez rassurant de savoir qu'il contraignait César à ne demeurer que sur une moitié de la Gaule. Par ailleurs, cette année 52, c'est celle aussi de la grande confédération des peuples qui vont former cette armée qui viendra à l'aider à le soutenir. Et normalement, cette armée qui était de plus de 300 000 hommes était amplement suffisante pour contrecarrer les légions qui étaient 60, 65 000 hommes tout au plus.
Et alors précisément, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Est-ce que ces hommes étaient si uniques cela? Est-ce qu'il n'y avait pas des divisions entre eux?
Ah oui, ben ça, les divisions ont toujours existé et il y en a une qui était effectivement très importante, c'est l'opposition entre les Éduins et les autres, parmi lesquels se trouvent les Arvernes, et certainement un jeu très très trouble des Éduins, qui, bien qu'ils se soient ralliés à la Confédération contre César, ont toujours finalement traité avec lui et ils ont agi en sous-main. Et donc cette armée de secours n'a pas joué le jeu qu'elle aurait dû jouer.
Alors je vais me permettre de renvoyer nos auditeurs à votre autre livre, Alésia. Nous avons d'ailleurs enregistré une émission avec Yann Le Boeck sur le sujet et nous arrivons peu à peu au terme de cette émission. Qu'a-t-il manqué à Vercingétorix, au fond, pour changer ce destin sans vouloir tomber dans l'Uchronie?
Alors, déjà, une question de temporalité. Je crois que tout ça est arrivé un tout petit peu trop tard. Je crois que si les événements d'Alésia s'étaient produits 3 ou 4 années plus tôt, je crois qu'il aurait parfaitement dominé la situation et finalement, pas vaincu César, mais il l'aurait empêché de s'établir en Gaule. Mais les 3 ou 4 années ont quand même suffi pour que la Gaule se retourne complètement et soit définitive. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que César était un grand administrateur, lui. Et dès qu'il entre en Gaule, tout de suite, il administre la Gaule. Donc, il fait ses traités dont je vous ai parlé. Et il commence à installer toute une administration avec ses peuples. Et au bout de 4-5 ans, les Gaulois sont déjà dans un autre monde. Ils ne conçoivent plus le monde comme ils le pensaient avant. Donc ça, c'est effectivement très important. L'autre raison qui fait qu'il n'a pas réussi, c'est que si effectivement à Alésia, il était maître de la stratégie dans la mesure où il avait cette citadelle qu'il avait parfaitement organisée, il essayait de reproduire le modèle qui lui avait réussi à Gergovie, où là il a battu César, ce dont il ne s'est pas rendu compte, c'est qu'il ne dominait pas le centre politique. Donc le centre politique de tous les Gaulois, c'était à Bibrac, c'était au Mont Beuvray. Et là, les Éduins étaient chez eux, et il pouvait faire tout ce qu'il voulait avec les députés de la Gaule, et il pouvait les orienter dans le sens où il voulait. Or, lui, depuis Alésia, c'est 80 kilomètres au nord du Mont Beuvray, il se trouvait coupé de ses arrières politiques, en quelque sorte. Et ça, je pense que ça a été son erreur, c'est quelque chose qu'il n'a pas vu.
Sa mort, alors il y avait une thèse dans les années 90 qui présentait le personnage vivant des beaux jours dans une villa romaine. Vous pensez très clairement qu'il est mort comme beaucoup de prisonniers à Rome après le fameux triomphe de César.
Oui, parce que bon, on a qu'une source qui nous dit qu'il a été effectivement égorgé dans la prison du Tullianum à Rome après le triomphe de César. C'est celle de Dion Cassius, qui est un auteur grec, bon, qui est un petit peu plus tardif, hein. Mais on sait que Dion Cassius s'est alimenté de lectures, notamment d'un ou de plusieurs historiens tout à fait hostiles à César, mais contemporains de César, et donc on pense que les sources de Dion Cassius étaient vraiment tout à fait fiables, et ce qu'il le dit, il ne peut pas le dire gratuitement, puisque lui est grec, il n'est pas directement impliqué dans ces histoires-là, donc je crois qu'il faut... Il faut vraiment croire ce que dit Dion Cassius.
Alors, vous terminez votre ouvrage par une image. Nous parlions d'archéologie tout à l'heure. Il s'agit d'un denier, d'argent. Est-ce que vous pourriez le décrire et montrer tout ce qu'on peut tirer de ce portrait?
Oui, alors c'est un portrait qu'on présume être celui de Vercingétorix. C'est une monnaie qui a été faite par un lieutenant de César, donc qui a combattu en Gaule, qui s'appelle Hostilius Saserna, mais qui est aussi un magistrat qui fabriquait des monnaies, et qui a fabriqué des monnaies en l'honneur de César, et plus particulièrement en l'honneur de sa conquête de la Gaule. Et sur l'une de ces monnaies, on voit un personnage donc de profil, qui est assez déjà vieilli, avec les cheveux déjà très longs, une barbe un peu curieuse, et en fait, ce personnage, c'est assurément celui de Vercingétorix, et ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'on y voit effectivement un vieillard, alors que finalement, une petite dizaine d'années plus tôt, Vercingétorix lui-même avait fait battre ses propres monnaies, où on voyait un homme jeune, imberbe, un petit peu avec une chevelure bouclée. C'est effectivement le même profil, mais on a l'impression qu'il y a 50 ans qui les séparent, alors qu'il y a à peine 10 ans.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Louis Bruno pour cet éclairage, ce très bel éclairage sur ce personnage, donc Vercingétorix. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage, donc paru aux éditions Gallimard dans la collection Biographie. Je vous prie de m'excuser aussi pour les petits bruits et autres sons que vous avez pu entendre derrière. Les conditions n'était pas optimum, mais ce n'est pas grave, nous ferons mieux la semaine prochaine, et je vous donne d'ailleurs précisément rendez-vous non pas la semaine prochaine, puisque les vacances approchent et Storia Voce prend des vacances. Nous nous retrouverons donc à la fin du mois d'août. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau numéro des Grands Entretiens.